Bonjour à tous. En route sur les chemins de la philosophie.
Ils ne sont jamais nombreux, mais tu peux compter sur eux. Les amis, c'est fait pour ça. Un pour tous et tous pour un, comme les cinq doigts de la main. Les amis, c'est fait pour ça. Comme ils sont toujours sincères, ils te parlent à cœur ouvert. Et quand ils te donnent tort, ça ne te plaît pas toujours. Vous voilà fâchés à mort, pour une heure ou pour un jour. Elle ne peut pas se briser, notre chaîne d'amitié, notre chaîne d'amitié.
Et oui, certaines journées commencent avec la voix d'Enrico Macias. Bonjour Valérie Laurent.
Bonjour.
Les amis, c'est fait pour ça, chante Enrico Macias, mais est-ce que Sénèque dirait pas au contraire que la vraie amitié est toujours désintéressée?
Elle est désintéressée et en même temps, Sénèque est le premier à dire, finalement au fond, si je veux être ami de quelqu'un, c'est pour aller à son chevet, c'est pour le consoler, c'est pour l'aider. Donc il y a, oui, les amis, c'est fait pour ça, mais sauf que dans la chanson, c'est... Mes amis sont faits pour ça, tandis que Sénèque dit, en tant qu'ami, je suis fait pour ça. Il y a une sorte de retournement de la situation.
Et c'est ni le premier ni le dernier des retournements. On a 45 minutes pour le voir. Alors, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Bordeaux-Montagne, l'auteur d'un ouvrage sur le stoïcisme et lien social. C'est en fait une enquête autour de Musonius Rufus aux éditions Classiques Garnier, d'un ouvrage sur la philosophie stoïcienne aux presses universitaires de France, d'un commentaire de La vie heureuse de Sénèque chez Ellipse. Alors, depuis lundi, on lit les lettres à Lucilius de Sénèque, rédigées vraisemblablement quelques années avant sa mort vers l'an 60 de notre ère. Après avoir occupé plusieurs charges importantes dans la vie politique de son temps, après de longues années à exercer la fonction de précepteur du futur empereur Néron, Sénèque se retire de la vie publique et rédige ses lettres à ce correspondant Lucilius, fictif ou bien réel, les avis divergent. Ces lettres peuvent être lues comme un manuel de philosophie visant à la transformation de soi. Le but, c'est de devenir sage, c'est-à-dire absolument maître de son temps et donc de sa mort, ce que Sénèque, de son propre aveu, n'est pas encore parvenu à faire. Nous avons évoqué depuis lundi les piliers de la philosophie stoïcienne, les exercices pour apprendre à mourir, l'aliénation par les richesses en général et l'argent en particulier. Et aujourd'hui, nous terminons cette série avec la question de l'amitié. C'est une question, en effet, qui se pose, Valérie Laurent, parce que si l'idéal du sage, c'est d'être autosuffisant, de se passer de tout ce qui me lie affectivement à la vie elle-même, alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'amis ?
En effet, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'amis? Et d'ailleurs, il y a des passages dans cette lettre 9 notamment, de Sénèque à Lucilius, et dans d'autres lettres aussi, il y a des passages tout à fait étonnants où on entend Sénèque dire « Mais enfin, bon, si il n'a pas d'amis, le sage peut tout à fait vivre heureux, et s'il a plus son ami, eh bien il peut le remplacer ». C'est pas très grave, finalement, l'ami, ça peut être une variable à signification vacante, on peut avoir Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas très grave, l'essentiel c'est d'avoir l'amitié. Alors la question c'est, l'amitié ok, mais alors l'ami on s'en fiche, ça serait un bien fongible, comme on dit, hein, ça peut changer, c'est pas très grave. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire l'amitié? Est-ce que c'est quelque chose qui serait très formel? Au fond, et on se fiche de qui est l'ami, ou bien l'amitié vient vraiment de l'ami, c'est un cœur à cœur, et je crois qu'il va falloir qu'on se trouve, qu'on s'y retrouve dans les méandres de la pensée de Sénèque à ce sujet.
Parce qu'en effet, d'une lettre à l'autre, ça varie considérablement, hein, de manière générale, alors il y a certaines constantes, mais sur la question de l'amitié, c'est vrai que Sénèque semble se contredire. Il y a un lien quand même qui le lie à Lucilius, qui est parfois un lien d'amitié, parfois un lien de maître à élève. Parfois, on a l'impression qu'il parle de lui-même, que Lucilius est comme son double. Vous pensez que cette question est importante? Est-ce que l'existence réelle de Lucilius et le rôle qu'il jouait pour Sénèque, ou est-ce que c'est une mise en scène d'écriture en réalité?
Écoutez, qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, d'une certaine manière, nous, lecteurs, aujourd'hui, on s'en fiche un peu. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, on n'a pas ce que raconte Lucilius, ce qu'il écrit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, même si c'est inventé, c'est cette relation entre deux cœurs, entre deux personnes, entre deux âmes, dont l'une est un peu plus avancée, au moins dans la vie, si ce n'est dans la sagesse, et comment, de cette relation qui a quelque chose quand même, effectivement, d'un coup de foudre, d'une amitié. Sénèque veut prendre en charge Lucilius, il lui dit dès le début, hein, Windicate Tibi, hein, revendique-toi toi-même. Et ensuite, d'ailleurs, il lui dira un petit peu plus tard, je te revendique. Et donc cette relation, bon, qu'elle ait existé ou non, nous intéresse nous en tant que lecteurs, en tant aussi que qu'historien de la philo pour ce qui est du thème de l'amitié dans le stoïcisme, pour voir comment fonctionne au fond cette amitié, comment elle est à la fois une relation éminemment, je dirais, plus que pédagogique, psychagogique, c'est-à-dire on se transforme dans l'amitié, et en même temps, cette relation un peu idéale, il faudrait voir comment comprendre ce mot idéal, entre deux sages qui partagent tout, et là où on a le summum du désintérêt, ou du désintéressement plus exactement, dans l'amitié. Donc, amitié à la fois comme véhicule viatique vers la sagesse, et en même temps, amitié comme parachèvement de la sagesse dans une relation parfaitement unie, parfaitement dans la concorde entre deux sages.
C'est-à-dire que la qualité de l'amitié dépend de la nature de ses protagonistes.
Alors certainement, l'amitié, la qualité de l'amitié dépend de la nature de ses protagonistes, mais en même temps, alors ça tout à fait, on y reviendra, mais en même temps, vivre l'amitié, s'y lancer, ça peut transformer quelqu'un. Voilà, c'est ça, c'est je crois les deux choses qu'il faut sans doute retenir. C'est osons l'amitié, prenons le risque de l'amitié. Il y a une maxime de les maximes vaticanes d'Épicure. Bon, c'est pas un stoïcien évidemment, mais Épicure est cité au début de la lettre 9. Les maximes dans les maximes vaticanes d'Épicure, Épicure dit il faut risquer l'amitié finalement. Je crois que Sénèque n'est pas si loin que ça. Il faut risquer l'amitié pour risquer la transformation. Voilà, l'amitié, c'est ce lieu très très sensible philosophiquement où on peut effectivement viser la transformation de soi. C'est même sans doute le seul lieu où on va véritablement s'éprouver soi-même.
Pourquoi dites-vous risquer l'amitié? Quel est le risque de l'amitié?
On a entendu dans cette formidable chanson Enrico Macias, au fond, l'amitié, c'est ce au lieu aussi de la sincérité, du cœur ouvert, de ce que les antiques appelaient la paresia, c'est-à-dire le franc-parler. Et on peut avoir, quand on a un ami, on peut s'entendre dire des choses parfois désagréables, on peut même avoir des choses désagréables à dire à son ami. En tous les cas, l'ami n'est jamais complètement neutre et sa parole n'est pas neutre. Et donc, ce qu'on va entendre de lui, ce n'est pas forcément toujours agréable, même si on en attend aussi des choses très agréables. Risquer l'amitié, c'est risquer ça, c'est risquer un chemin avec quelqu'un.
Alors, si le sage se suffit, a-t-il pour autant besoin d'amis? C'est la question que pose Sénèque à Lucilius dans la lettre 9, dont voici un extrait interprété par Georges Clès.
Cette maxime, le sage se suffit, est mésinterprété, cher Lucilius, par la plupart des hommes. Il repousse de partout le sage et l'emprisonne dans son unique individu. Or, il faut bien pénétrer le sens et la portée de ce que cette maxime promet. Le sage se suffit quant au bonheur de la vie, mais non quant à la vie elle-même. Celle-ci a de nombreux besoins. Il ne faut pour le bonheur qu'un esprit sain, élevé et contempteur de la fortune. Je veux te faire part encore d'une distinction de Chrysippe. Le sage, dit-il, ne manque de rien, et pourtant beaucoup de choses lui sont nécessaires. Rien, au contraire, n'est nécessaire à l'insensé qui ne sait faire emploi de rien et tout lui manque. Le sage a besoin de main, d'yeux, de mille choses d'un usage journalier et indispensable, mais rien ne lui fait faute. Autrement, il serait esclave de la nécessité. Or, il n'y a pas de nécessité pour le sage. Voilà comment, bien qu'il se suffise, il faut aux sages des amis. Il les souhaite les plus nombreux possibles. Mais ce n'est pas pour vivre heureusement. Il sera heureux même sans amis. Le vrai bonheur ne cherche pas à l'extérieur ses éléments. C'est en nous que nous le cultivons. C'est de lui-même qu'il sort tout entier. On tombe à la merci de la fortune dès qu'on cherche au dehors quelque part de soi. Quelle sera cependant l'existence du sage sans amis, abandonné, plongé dans les cachots, ou laissé seul chez un peuple barbare, ou retenu sur les mers par une longue traversée, ou exposé sur une plage déserte? Il sera comme Jupiter, qui, dans la dissolution du monde, où se confondent en un seul chaos les dieux et la nature un moment expirante, se recueille, absorbé dans ses propres pensées. Ainsi, fait en quelque façon le sage, il se replie en soi, il se tient compagnie. Tant qu'il lui est permis de régler son sort à sa guise, il se suffit. Et néanmoins prend femme. Il se suffit et devient père. Et il ne vivrait pas s'il lui fallait vivre seul. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est nullement l'intérêt, c'est un entraînement de la nature, laquelle, ainsi qu'à d'autres choses, a attaché un charme à l'amitié.
Aidez-nous Valérie Laurent, parce que en une page de texte, on entend 5 idées différentes qui semblent toutes se contredire. D'un côté, le sage se replie en soi, il se tient compagnie, mais de l'autre, il ne vivrait pas s'il fallait le vivre seul, s'il lui fallait vivre seul. D'un côté, il n'y a pas de nécessité pour le sage, mais en même temps, c'est un entraînement de la nature qui lui fait s'attacher à l'amitié. Qu'est-ce qu'il faut en tirer ici comme conclusion ?
C'est sûr que c'est pas un texte simple.
Pensez à ceux qui ont les lettres à Lucilius au programme de l'agrégation de lettres classiques.
Les pauvres. Non, en même temps, c'est bien. C'est pas un texte simple parce que la matière est sans doute un peu par elle-même rebelle. Alors, on peut dire d'abord, première chose très importante, c'est que effectivement, la nature nous porte vers les autres hommes. Hein. On est, pour ainsi dire, programmé pour vivre au moins en société. Hein. On ne peut pas vivre seul pour un stoïcien et on est programmé pour vivre en cité, pour se lier au fond. Alors, les liens, ils sont très différents selon qu'on est avec des insensés, selon qu'on est avec des sages, selon qu'on est avec des progressants, qui sont des insensés.
Les progressants,
ceux qui progressent sur le chemin de la sagesse. Ces liens, ils peuvent être de plusieurs formes. On peut avoir des liens un petit peu lâches, un petit peu... et puis, il peut y avoir des liens qui soient presque une unité. L'amitié est de ce type-là. Hein, vous avez des textes comme ça qui font diverses. Vous pouvez avoir des liens comme des mélanges entre des grains de blé, de haricots, etc. C'est-à-dire des liens qui ne sont là que par contiguïté. Mon voisin, je suis lié à mon voisin parce que c'est mon voisin, comme ça. Et puis il y a des liens un peu plus profonds, etc., etc. Bon, on est fait pour ces liens. Ça, c'est sûr. La nature nous y incline. Maintenant, le sage n'en dépend pas, ne dépend pas de ses liens. Comme au fond, finalement, la nature nous incline aux liens, mais nous dit, pour avoir un vrai lien, il faut aussi pouvoir se passer du lien. C'est-à-dire que qu'on essaie de comprendre, au fond, cette distinction entre manquer et avoir besoin. Sénèque dit « Le sage ne manque de rien ». Ça veut dire quoi, au fond ? Ça veut dire que il est un tout par lui-même. Il est un tout par lui-même. Il ne dépend pas de l'extérieur. C'est pourquoi il dit qu'il est autarque. In se contentus, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même.
Autosuffisant,
voilà. Dès le début de la lettre, d'ailleurs. Oui. Hein, il part de ce paradoxe-là. Mais au fond, c'est peut-être parce que il est autosuffisant qu'il peut prendre l'ami comme lui-même, c'est-à-dire comme un autre, et non pas comme une extension de lui-même. L'insensé, par exemple, va manquer de tout, c'est-à-dire que il va tout prendre comme lui étant nécessaire, c'est-à-dire comme faisant partie de lui. D'accord ? S'il manque d'amis, alors ça veut dire que l'ami fait partie, pour ainsi dire, de lui. Mais quelle horreur ! Enfin, quelle vision de l'amitié où finalement on est collé à son ami, presque on est dans une sorte de fusion.
Il n'y a plus d'altérité, quoi.
Et il n'y a plus d'altérité. Et je crois que c'est sur ce paradoxe que joue Sénèque, c'est-à-dire dans l'amitié, il y a à la fois ce lien très fort, mais ce lien très fort est au prix, finalement, de la possibilité d'être seul. Et quel meilleur service rendre à l'ami que de pouvoir lui dire « Mais au fond, je suis moi-même, je peux être seul, et ton amitié, notre amitié, est d'autant plus agréable qu'elle nous permet d'être deux. »
Mais est-ce que ça veut dire qu'un ami véritable pour un sage est un ami choisi ? Ou qu'il y a un lien d'affinité première qui quand même pour le sage stoïcien, serait peut-être une faiblesse, puisque le but est quand même d'être le plus détaché possible de toute forme de lien affectif dont je serais tributaire.
Je ne suis pas du tout sûr que le but soit d'être détaché de tout lien affectif. Là, c'est une grande différence, si vous voulez. C'est par là que commence aussi Sénèque, hein. Il parle de l'apatheia, l'absence de passion. Bon, ça c'est une chose, mais le stoïcisme, le sage stoïcien, si vous voulez, il n'est pas apathique. Au sens strict, il est eupatique, c'est-à-dire qu'il a des bonnes passions. Et parmi les bonnes passions, il y a précisément l'attachement. C'est-à-dire, c'est pas rien.
Mais ça. De l'attachement à l'asservissement, parfois la limite est très ténue.
Mais justement, précisément, puisque il ne considère pas l'ami, l'autre, comme une espèce de dépendance de lui-même ou d'excroissance de lui-même. C'est-à-dire, quand il n'a pas d'amis, il ne manque pas. Mais en revanche, donc comme il ne considère pas l'autre comme une excroissance de lui-même, il n'est pas, on pourrait dire, soumis à une sorte de d'emprise de l'ami, d'accord. Mais en même temps, il en a besoin, c'est-à-dire que il trouve dans cette relation de quoi bien vivre. On a vu dans le texte, hein, ce texte est très beau. Hein. Le sage ne manque de rien et pourtant beaucoup de choses lui sont nécessaires. C'est vrai, pour vivre il a besoin de bouffer, etc. Bon, c'est normal. Pour bien vivre, il se suffit complètement à lui-même. Et c'est précisément parce qu'il est bien auto-centré, on pourrait dire, hein, correctement auto-centré, parce qu'il se suffit, que l'amitié sera d'autant plus importante. Hein, parce que elle va être véritablement le lieu d'un échange avec un autre. C'est un peu joué sur la définition, vous savez, très classique, de l'ami comme autre soi-même, au fond, hein, alter ego. L'ami, c'est à la fois un moi, et on partage plein de choses, on en reparlera peut-être, mais en même temps c'est un autre. Et je crois que toutes ces hésitations dans ce texte de Sénèque, c'est aussi pour assurer le statut d'altérité à l'ami.
Ce que nous appelons d'ordinaire amis et amitié ne sont que des relations familières nouées par quelques circonstances ou par utilité et par lesquelles nos âmes sont liées. Dans l'amitié dont je parle, elles s'unissent et se confondent de façon si complète qu'elles effacent et font disparaître la couture qui les a jointes. Si l'on me presse de dire pourquoi je les mets, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Au-delà de mon discours et de ce que j'en peux dire particulièrement, il y a je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant de nous être vus, et les propos tenus sur l'un et l'autre d'entre nous faisaient sur nous plus d'effet que de tels propos ne le font raisonnablement d'ordinaire. Je crois que le ciel en avait décidé ainsi. Prononcer nos noms, c'était déjà nous embrasser. Et à notre première rencontre, qui se fit par hasard au milieu d'une foule de gens, lors d'une grande fête dans une ville, nous nous trouvâmes tellement conquis l'un par l'autre, comme si nous nous connaissions déjà et déjà tellement liés, que plus rien dès lors ne nous fut aussi proche que nous ne le fûmes l'un pour l'autre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, cette déclaration d'amitié de Montaigne à la Boétie, hein, qu'on trouve au chapitre 28 de l'amitié, des essais de Montaigne. Montaigne, grand lecteur de Sénèque, Valérie Laurent, quand on entend ce texte, on se demande si c'est une déclaration d'amitié ou d'amour.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce texte. C'est une déclaration d'amitié. Et on va voir que entre l'amitié et l'amour, il y a peu de différence. Enfin, il y a des grandes différences, mais il y a un petit espace. Une chose sur laquelle je voudrais réagir dans ce texte, c'est que il y a quand même, effectivement, on pourrait l'écouter effectivement avec une oreille totalement stoïcienne. Avec d'abord ces deux âmes qui n'ont plus aucune couture entre elles, donc une sorte d'unité. Alors on pourrait se dire oh oh oh, unité complètement fantasmatique. Alors qu'est-ce que c'est, l'altérité de l'autre, où elle est passée, on est tous les deux mêmes, etc. Mais au sein de cette unité, il y a cette phrase extraordinaire, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
On garde bien deux personnes.
Les stoïciens ont un modèle pour penser ça, c'est la crassis. La crassis, ce qu'on appelle le mélange total. La crassis, c'est un mélange total, par exemple un mélange d'eau et de vin, hein, qui serait où le vin et l'eau se mélangent absolument, chaque cellule, chaque micro se mélange. Et en même temps, chacun des éléments mélangés garde son individualité, garde ses propriétés, et du reste, on peut, dit le stoïcien, séparer les éléments de ce mélange. Je crois que Montaigne parle un petit peu de ça, ou du moins peut-être ce modèle en tête. En tous les cas, c'est un modèle particulièrement stoïcien. Alors maintenant, effectivement, sur cette déclaration d'amitié, sur le fait de tomber ami, comment dit-on ? Tomber amoureux, tomber en amitié.
Justement, il n'y a pas vraiment de formule pour... On dit tomber amoureux, mais on ne dit pas tomber en ami.
Voilà, et Sénèque est assez formidable dans la lettre 9, parce que c'est au début de la lettre 9, il a un de ces petits moments où on a l'impression que Sénèque dévie un peu, déraille un peu, et d'ailleurs il se reprend après. Il parle à partir du paragraphe 6 de cette manière dont le sage se fera un ami, et il dit au fond, mais ce qui est le plus important dans cette affaire, ce qui est vraiment agréable, c'est de se faire l'ami, hein, de se le fabriquer, de cette période où deux cœurs commencent à s'ouvrir l'un à l'autre. On croirait qu'on est en train de parler d'amant.
C'est ça, il est plus doux de faire que d'avoir un ami, comme l'artiste jouit plus à peindre son tableau qu'à l'avoir peint. L'enchantement n'est plus si vif quand l'œuvre finie, sa main a quitté la toile, alors il jouit du fruit de son art, mais il jouissait de l'art même lorsqu'il tenait le pinceau.
Absolument.
Il parle explicitement de jouissance ici.
Oui, oui, il y a tout un vocabulaire, hein, tout un vocabulaire de extrêmement autour de l'agréable, très sensuel, très... Donc il y a ce moment extrêmement sensuel de l'amitié. Je rappelle qu'une des définitions, ou la définition d'ailleurs, de l'amour chez les stoïciens, c'est cette chasse qui a pour cause la beauté, et qui a pour but l'amitié. C'est-à-dire, pour les stoïciens, l'amour, ça se finit en amitié. Hein? Donc il y a peut-être dans l'amitié cette composante érotique, qui à mon avis est assez classique et tout à fait normale dans une amitié, une composante érotique qui se surmonte par la relation.
L'amitié serait la sagesse de l'amour.
Ah, c'est joli. C'est joliment dit. Pourquoi pas ? L'amitié serait la sagesse de l'amour. Quelque chose comme ça, surtout que au paragraphe 11, dans cette lettre 9, Sénèque nous dit que l'amour est la folie de l'amitié.
Bah écoutons le texte, laissons la parole à Sénèque un peu plutôt que de parler à sa place. Écoutez-le par la voix de Georges Clès.
Qui s'est fait ami par intérêt sera séduit par quelque avantage contraire à cette amitié si en elle une autre chose qu'elle l'attirait. Pourquoi est-ce que je prends un ami ? Afin d'avoir pour qui mourir, d'avoir qui suivre en exil, de qui sauver les jours, s'il le faut, aux dépens des miens. Cette autre union que tu me dépeins est un trafic. Ce n'est pas l'amitié. Un profit l'appelle, il y va. Le gain à faire, voilà son but. Nul doute qu'il y ait quelque ressemblance entre cette vertu et l'affection des amants. L'amour peut se définir la folie de l'amitié. Eh bien, éprouve-t-on jamais cette folie dans un but de lucre, par ambition, par vanité ? C'est par son propre feu que l'amour, insoucieux de tout le reste, embrase les âmes pour la beauté physique, non sans espoir d'une mutuelle tendresse. Et quoi ? Un principe plus noble produirait-il une affection honteuse ? Il ne s'agit pas ici, dis-tu, de savoir si l'amitié est à rechercher pour elle-même ou dans quelque autre vue. Si c'est pour elle-même, celui-là peut s'approcher d'elle qui trouve son contentement en soi. Et de quelle manière s'en approche-t-il ? Comme de la plus belle des vertus, sans que le lucre le séduise ou que les vicissitudes de fortune l'épouvantent. On dégrade cette majestueuse amitié quand on ne veut d'elle que ses bonnes chances.
De son propre aveu, Sénèque affirme nul doute qu'il y ait quelque ressemblance entre cette vertu, qu'est l'amitié, et l'affection des amants. Puis il ajoute, l'amour peut se définir la folie de l'amitié. Mais finalement, on ne comprend pas très bien dans ce texte, ni dans les autres d'ailleurs, Valérie Laurent, s'il condamne l'amour ou pas. Finalement, c'est peut-être un passage obligé, comme vous dites, une étape vers l'amitié. Ce qui fait qu'il y aurait, pour reprendre aussi la formule de Montaigne, une espèce d'affection première qui nous conduit vers les amis qu'il faut savoir ensuite entretenir.
Oui, qu'il faut, je ne sais pas, en tous les cas, que l'amitié amène à entretenir par elle-même. C'est-à-dire, au fond, alors, sur l'amour, déjà, oui, alors, et l'amour, est-ce que c'est une passion, normalement, hein, quand on lit, par exemple, ce que peut écrire Cicéron dans les Tusculanes sur l'amour, c'est pas très engageant. C'est véritablement quelque chose qu'il faut pouvoir, si ce n'est éviter, au moins parfaitement maîtriser. Et vraiment, enfin, l'amour, n'en parlons pas trop. Et du reste, Sénèque aussi, je ne sais plus exactement dans quelle lettre, peut-être la lettre 116, je ne suis pas sûr, en parle aussi, hein, et dit, bon, pour l'instant, ne parlons pas d'amour, ça, laissons ça pour l'instant aux sages, parce que seul le sage sait être amoureux. Seul le sage, effectivement, peut guider ou se laisser guider par l'amour, hein, qui est défini, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme cette chasse qui a comme cause la beauté, qui est la fleur de la vertu. Alors, quelle beauté ? Beauté morale, beauté physique. Je crois que l'ambiguïté est voulue, hein. Finalement, au fond, il y a quelque chose d'assez physiognomonique là-dedans, hein. Celui qui est beau a toujours quelque chose d'une beauté morale.
Comme chez Platon, en fait.
Oui, hein. Ça transparaît dans son corps. Mais cette chasse a comme but l'amitié, c'est-à-dire a comme but exactement ce que décrit Sénèque, cette relation désintéressée, cette relation qui a surmonté d'une certaine manière l'érotique, l'érotisme. Mais même, au fond, on pourrait trouver chez Musonius, un stoïcien de la même époque. Hein,
auquel vous avez consacré un ouvrage.
Absolument. On a avec l'épouse, par exemple, hein, l'épouse est une très grande amie, et en même temps, il y a, comment pourrait-on distinguer au fond l'amour pour l'épouse et l'amitié pour l'ami ? Ben, on pourrait dire que pour l'ami, c'est un amour sans sexe, d'une certaine manière. Hein, pas sans sexualité, un amour sans sexe.
C'est-à-dire sans désir ?
Pas sans désir, en surmontant finalement, ou surmontant ou dépassant ou trouvant un chemin pour le faire passer ailleurs.
Une forme de sublimation aujourd'hui.
Ouais. Oui, pourquoi pas. Et je crois que c'est l'amitié elle-même, c'est-à-dire c'est cette relation très spécifique qui amène finalement. C'est pour ça que l'amour est peut-être au début, mais en même temps. C'est bel et bien l'amitié comme telle, c'est-à-dire une amitié qui va assembler deux personnes qui vont se revendiquer elles-mêmes, deux personnes qui sont elles-mêmes l'une en face de l'autre. Je suis en face de mon ami comme en face d'un autre, véritablement, et je vis cette altérité, et c'est peut-être, et lui vit mon altérité, et c'est peut-être précisément cette spécificité de la relation qui va l'amener à se dépasser. Et peut-être amener les protagonistes de la relation, effectivement, à progresser aussi dans la sagesse, à progresser en tout cas dans quelque chose de la sagesse. en elle-même. Je pense que l'amitié, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de viatique. Alors l'amour, du coup, ça peut soit finir en belle amitié, c'est la définition même de l'amour chez les stoïciens, soit ça peut être la folie de l'amitié chez les insensés, c'est-à-dire l'amour finalement qui ne veut trouver que le corps ou qui pour lequel on se rend fou. Si on se rend fou pour l'amante, par exemple, de jalousie, etc., c'est bien parce que, au fond, elle n'est pas elle-même pour nous. Si je suis jaloux, ou si celle que j'aime n'est qu'un objet sexuel, ou si je suis trop en fusion, fusionné avec elle, etc., c'est que je ne la laisse pas dans son altérité. Je crois que l'amitié, plus que l'amour, au fond, ou peut-être l'amitié comme, alors à ce moment-là, élément de l'amour, c'est cette relation où je découvre fondamentalement, je vis et j'expérimente l'altérité de l'autre et mon et ma propre altérité.
Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut décider de cela? C'est ça la question, parce qu'on sait que c'est chez Sénèque, la vertu est affaire de volonté. Dans le texte de Montaigne, et j'y reviens parce que c'est quand même une sorte de paradigme de l'amitié, il dit bien, parce que c'était lui, parce que c'était moi, certes, il y a le maintien de deux entités distinctes, mais il y a aussi l'expression d'une forme de coup de foudre, d'une évidence qui ne relève pas du tout de la volonté. Donc, chez Sénèque, qu'en est-il de l'amitié? Est-ce qu'on choisit ses amis ou est-ce qu'on les découvre? Est-ce qu'ils s'imposent à nous?
Alors, je pense qu'on choisit ses amis, le sage veut ses amis, le sage choisit toujours, mais il y a quelque chose quand même où il est aussi en, il y a, dans le paragraphe 11 qu'on lisait tout à l'heure, au fond, il dit dans l'amour.
Dans la lettre 9,
Dans la lettre 9, pardon. Dans l'amour, on est comme embarqué, on cède au puissant attrait de la beauté. Donc il y a quelque chose de cet ordre. On est complètement entraîné et entraîné par sa nature qui veut, on l'a dit tout à l'heure, qui attend de nous qu'on soit incliné vers les autres, vers les relations aux autres. Mais en même temps, il y a cette découverte très profonde, et c'est pour ça aussi que ce texte est tout à fait intéressant sur l'amour. Il y a cette découverte très profonde que dans l'amour, on attend quelque chose de la réciprocité. L'amour, c'est ce lien aussi particulier qui est comme l'amitié, mais où on découvre la réciprocité et donc en même temps, encore une fois, l'altérité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
En partie, si. Et l'autre partie, vous allez y répondre dans un instant, parce que quand vous dites cet apprentissage à laquelle l'amitié nous convie et qu'en même temps, il faut apprendre à être ami, quelque chose de l'amitié qui s'apprend, c'est ce qu'exprime Lucilius dans la lettre 6, cette fois-ci, où il montre que son ami Lucilius est bien réel, mais qu'il doit encore gagner en confiance à son égard. Écoutez cette distinction décisive ici entre l'amitié et la confiance.
Je comprends, Lucilius, non seulement que je m'amende, mais que je me transforme. Non que je promette déjà ou que j'espère qu'il ne reste rien en moi à changer. Comment n'aurais-je pas bien des traits que j'ai le devoir de reprendre, d'atténuer, de développer? Et la preuve justement qu'une âme s'est améliorée, c'est qu'elle voit ses défauts que jusque-là elle ignorait. C'est pourquoi je désirerais partager avec toi le changement si soudain en moi-même. Alors, je commencerai à avoir plus sûrement confiance en notre amitié, la vraie, que ni l'espérance, ni la crainte, ni le souci de l'intérêt personnel ne mettent en pièces, celle avec laquelle les hommes meurent, pour laquelle ils meurent. Envoie-moi, demandes-tu, ces pensées que tu as jugées par expérience si efficaces. Pour ma part, je désire tout transvaser en toi, et je ne me réjouis d'apprendre une chose que pour l'enseigner, et je n'en savourerai aucune, si extraordinaire et salutaire soit-elle, quand je serai destiné à la savoir pour moi seul. Si la sagesse m'était donnée à cette réserve près que je la tienne enfermée et que je ne la communique pas, je la regretterais. Aucun bien n'est agréable à posséder si l'on n'y associe personne. En attendant, puisque je te dois un petit salaire journalier, je te dirai ce que j'ai savouré aujourd'hui chez Hécatone. « Tu demandes, dit-il, quel progrès j'ai fait ? j'ai commencé à être l'ami de moi-même. Il a beaucoup progressé. Il ne sera jamais seul. Sache qu'il existe, cet ami, pour tous les hommes. Porte-toi bien.
Sénèque n'est jamais aussi touchant que lorsqu'il avoue ses propres faiblesses, Valérie Laurent, lorsqu'il avoue qu'il est sur le chemin de la sagesse, il est un progressant, comme vous avez dit, mais pas encore un sage, et quoi, à ce titre, il a des leçons à donner à Lucilius, mais qu'il ne se considère pas comme étant infiniment supérieur à lui. On entend dans ce texte le plaisir, là encore, jouissif de la transmission, hein, « je désire tout transvaser en toi », l'image est très forte, et aussi cette affirmation qui est très importante, là, pour le coup, dans un cadre plus largement stoïcien, d'être l'ami de soi-même. Mmh. C'est-à-dire qu'être l'ami de soi-même, c'est une manière de ne jamais être seul. Et là, pour le coup, on n'est pas dans une relation d'altérité par rapport à soi, mais de bonne entente, qui est le point de départ, cette tranquillité de l'âme, sans doute indispensable à toute forme de lien extérieur par la suite.
Oui, on a un nouveau paradoxe ici. Du reste, Aristote, dans l'Éthique et Eudème, on parle beaucoup de ce paradoxe, hein. Être l'ami de soi-même, est-ce qu'on peut être l'ami de soi-même? Très compliqué. Être l'ami de soi-même, c'est quoi? Alors que je viens justement d'insister énormément sur l'altérité de l'ami. Qu'est-ce que ça devient? Je crois qu'on peut avoir déjà une première piste dans ce que Sénèque dit au début de la lettre 9. Hein, déjà, aime et puis tu seras aimé. Hein, c'est ce qu'il dit en substance. Aime et l'on t'aimera. Il y a quelque chose de cet ordre aussi dans être l'ami de soi-même, c'est-à-dire pouvoir s'aimer. Pouvoir s'aimer, peut-être pas comme un autre, pour le coup là c'est pas possible, mais pouvoir s'aimer, c'est pouvoir finalement au fond être conforme à soi-même. C'est le but et c'est toute la différence qu'il y a entre ce que les stoïciens appellent l'oikeiosis, l'appropriation à soi-même, hein, c'est le but du jeu quand même, hein, c'est-à-dire, ça c'est la lettre 121 de Sénèque à Lucilius, mais on le trouverait ailleurs souvent chez les stoïciens, c'est cette impulsion de la nature qui fait que tout être vivant est immédiatement adapté à lui-même. Et au fond, on en a une première expression de cette impulsion de la nature qu'est l'oikeiosis dans l'autoconservation, dans l'instinct de conservation. Hein. Je vais rejeter le nuisible et prendre ce qui m'est utile. Et au fond, l'oikeiosis, c'est un peu cet auto-chérissement de soi. Et on a notamment Épictète, un très beau texte d'Épictète qui oppose la philotia, c'est-à-dire la philotia, on pourrait dire l'égoïsme, l'amour propre ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire s'aimer.
Mais le narcissisme.
Le narcissisme, si l'on veut. Il en faut toujours un peu quand même. Mais qui va opposer la philotia, effectivement comme une sorte de d'amour égoïste, hein. Et puis l'oikeiosis, c'est-à-dire au fond une manière de tout faire pour soi, c'est sûr, mais d'être correctement autocentré et non pas être autocentré sur un fantasme de soi. Finalement, s'aimer soi-même, c'est peut-être se reconnaître soi-même comme soi-même. Ce qui manque à Sénèque, il le dit lui-même de son propre aveu, hein, je ne suis pas encore complètement moi-même. Je me transforme, je suis en route vers moi-même, donc je n'ai pas encore tout ce qu'il faut pour m'aimer moi-même. Et en même temps, dans ce chemin-là, je commence à m'aimer moi-même. Et on voit que, encore une fois, l'amitié, c'est tout à la fois la fin, c'est-à-dire cette relation désintéressée où on sera entre deux sages parfaitement eux-mêmes tous les deux et parfaitement dans une relation parfaite. Et en même temps, c'est cette relation où l'on s'apprend, où l'on se transforme et où, se transformant, on va transformer l'autre.
Mais c'est ça, parce que l'importance qu'il accorde à la transmission, hein, il dit « je désire tout transvaser en toi, je ne me réjouis réjouis d'apprendre une chose que pour te l'enseigner. Je n'en savourerai aucune, si extraordinaire soit-elle, quand je serai destinée à le savoir pour moi seule. C'est que dans cet apprentissage, en route vers la sagesse, il a un réel plaisir à ne pas être seul. Non seulement à ne pas être seul, mais à enseigner à être dans ce type de relation qui est celui de la transmission.
Et du partage.
Et du partage.
Absolument. C'est-à-dire, au fond, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a lu le premier texte, je crois, hein, le sage te suffit à lui-même. S'il était dans un cachot ou sur une île déserte, eh bien, il serait comme Jupiter, il s'entretiendrait avec ses propres pensées. Sauf que déjà, là, on a quelque chose de l'altérité. Il s'entretient avec ses propres pensées. Hein. C'est-à-dire que je recrée en moi, finalement, quelque chose de l'autre. Sans doute, toute le travail de la transformation de soi, c'est ce qui n'est pas rien, hein, parce que ce travail de transformation de soi, Sénèque en donne le programme dès la lettre 1. Je le répète, windi kate tibi, c'est-à-dire revendique-toi toi-même, sois toi-même, transforme-toi, va vers toi-même. Ce travail d'aller vers soi amène naturellement à s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire, au fond, faire tout pour soi, c'est s'apercevoir peu à peu, faire aussi pour l'autre.
Écoutez, c'est l'étonnante lettre 34 que Sénèque adresse à Lucilius, il écrit ceci: « Je grandis, je triomphe, et secouant les glaces de l'âge, je me sens réchauffé chaque fois que ta conduite et tes lettres m'apprennent combien tu t'es dépassé toi-même, car dès longtemps tu as laissé la foule derrière toi. Si l'agriculteur est charmé quand ses arbres se couronnent de fruits, si le berger prend plaisir à voir multiplié son troupeau, s'il n'est personne qui n'envisage comme sien les progrès physiques de l'enfant qui la nourrit, que penses-tu qu'éprouve l'homme qui a fait l'éducation d'une âme, qui l'a façonnée tendre encore, qui la voit tout d'un coup grande et forte? Eh bien, je te revendique, moi, tu es mon ouvrage. Aux dispositions que je t'ai reconnues, j'ai mis sur toi la main. T'encourageant, te pressant de l'aiguillon et impatient de toute lenteur, je t'ai poussé sans relâche. Je le fais encore aujourd'hui, mais déjà j'exhorte un homme en pleine course qui me renvoie les mêmes exhortations. Tu me demandes ce que je veux de plus? Il y a beaucoup d'accomplis. Et là, il y a comme une sorte de transfert de l'auto-revendication à la revendication de son propre élève. On est au-delà de la question de l'amitié ou de l'amour. Ici, il y a quelque chose d'encore plus puissant.
Je crois qu'on est typiquement dans quelque chose qui, tout à l'heure, j'appelais ça une sorte de psychagogie plus que de la pédagogie. C'est-à-dire qu'au fond, on a ce Sénèque qui, dans la lettre 6, expérimente qu'il se transforme lui-même, qui prend Lucilius comme témoin de sa transformation, mais pour lui, il lui dit très clairement, c'est pour que lui se transforme aussi. C'est-à-dire, au départ, on aurait l'impression que c'est une sorte de relation pédagogique, mais en même temps, on a ce fonctionnement même de l'amitié qui va pousser à transformations mutuelles et qui va surtout permettre à Sénèque, dans ce que vous venez de lire, de dire à Lucilius, bon, je te revendique comme, au fond, mon œuvre parce que je t'ai un petit peu sculpté, mais en même temps, alors que je te revendique comme mon œuvre, je te rends à toi-même. Je m'adresse à quelqu'un qui est en pleine course et qui pourrait
qui
me renvoie les mêmes exhortations. C'est-à-dire que maintenant tu es en lieu et place et tu peux faire la même chose que moi. C'est-à-dire on est arrivé dans une relation à peu près égalitaire. C'est-à-dire je crois que l'amitié c'est ça aussi, c'est-à-dire amener peu à peu la relation à être une relation entre égaux. Ce qui va permettre d'ailleurs de pouvoir partager d'autant mieux, hein. On partage d'autant mieux entre égaux. Finalement, au moment où il dit à Lucilius « je te revendique », en même temps il le libère. C'est-à-dire il lui dit « maintenant, tu es dans une position où tu peux faire la même chose ».
Oui, on peut aussi l'entendre de manière un petit peu plus perverse quand même, parce qu'affirmer à propos d'un ami qu'il est notre œuvre, que nous l'avons façonné, que maintenant il peut voler de ses propres ailes, c'est aussi une manière de rappeler qu'il nous doit tout et de le libérer, pas vraiment, aussi de lui présenter la note quelque part.
Quelle note ?
Bah, il lui dit qu'il lui doit tout, que c'est lui qui est son propre ouvrage. Bah, je suis l'auteur de ta vie maintenant, bas de tes propres ailes, mais n'oublie pas que c'est moi qui, que tu me dois tout.
Sauf que
c'est
maintenant,
un fondement patristable pour une amitié saine. Si.
Sauf que maintenant, tu peux, lui dit-il, maintenant tu peux faire la même chose. Alors, fondement patristable pour une amitié saine, je crois qu'il y a, toute une gestion de la dette. Ça, vous avez tout à fait raison de le voir. Mais ce qui est marrant dans cette lettre 9, c'est que, et dans les premières lettres, c'est-à-dire dans le début de cette amitié, au moins littéraire, on a Sénèque qui apporte à chaque fois son petit écho. Il dit « Ah, mais je te dois une maxime » et il lui donne à la fin des lettres une petite maxime. D'ailleurs, dans la première, je crois, dans le premier texte que l'on a vu, bon, je ne sais plus dans lequel c'était. Ah si, c'est dans le troisième texte, pardon. En attendant, puisque je te dois un petit salaire journalier, je te dirai ce que j'ai savouré aujourd'hui chez Hécaton. Tu demandes quel progrès j'ai fait. J'ai commencé à être l'ami de moi-même. Cette espèce de petit salaire journalier, cette dette qui se négocie. Je crois qu'on est tout à fait dans l'amitié. C'est-à-dire, est-ce que l'amitié, c'est pas aussi quelque chose de la négociation? D'une dette, d'un échange. Et les stoïciens ont parfaitement, ont parfaitement illustré ça. Vous l'avez dans des bénéfices, des bienfaits de Sénèque. Cette image, qui vient d'Hécaton d'ailleurs, je crois. Non, qui vient de Chrysippe, pardon. Cette image de l'échange, du jeu de paume, au fond, où qu'est-ce que c'est que l'amitié ? C'est cet échange bien fait, bien donné, bien recevoir, bien donné pour que l'autre reçoive bien et puisse renvoyer aussi bien pour que je puisse recevoir. Et la balle, dit-il, est totalement indifférente. Ce qui compte, c'est l'échange.
Il y a aussi une dimension, on terminera là-dessus, si ce n'est sexuelle, du moins érotique quand même, dans ce lien. Les images sont assez claires dans la lettre 34 que j'ai lue. Hein. Je t'ai poussé sans relâche, j'ai mis sur toi la main, t'encourageant, te pressant de l'aiguillon. C'est très présent.
C'est tout à fait clair, mais justement cette érotique dont on a dit tout à l'heure que c'était par là que ça commençait. Je crois que l'amitié ne la nie pas, mais je crois précisément que l'amitié négocie aussi cette érotique dans cet échange dont le but n'est pas ce qu'on échange, mais le but est bien de continuer l'échange. Hein, cette belle image de Chrysippe.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night.
Alors on avait le choix, hein, finir avec Freddie Mercury, You're My Best Friend, ou Carole King, You've Got a Friend. C'est Nicolas Berger qui a gagné. Valérie Laurent, vous auriez choisi quoi ?
Mercury.
Bon, moi aussi, c'est pas grave. Merci en tout cas d'être venu nous parler des lettres
merci
à Lucilius de Sénèque aujourd'hui. C'est passionnant de vous écouter en parler. On peut aussi vous lire hein, Stoïcisme, lien social, une enquête autour de Musonius Rufus aux éditions Classique Garnier, De la vie heureuse de Sénèque, un commentaire aux éditions Ellipse et aussi La politique stoïcienne aux éditions PUF. Et je renvoie à cette fin de semaine sur les lettres à Lucilius, à l'introduction que Paul Venn propose de Sénèque aux éditions Texto, ainsi que le livre d'Ilse Trott, Ado, Direction spirituelle et pratique de la philosophie chez Sénèque, aux éditions Vrin. Nicolas, je te l'accorde, c'est une chanson sublime. Merci pour ce choix. Et bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous venez nous parler d'un livre qui vient de paraître pour vos 2 minutes papillon. Et aujourd'hui, vous nous parlez de rythme.
Oui, tout à fait. C'est un livre sur le rythme. Le titre, c'est Une civilisation du rythme. C'est écrit par Jacques Reda, paru aux éditions Buchet-Chastel. Alors pour Jacques Reda, la civilisation du rythme, ici, c'est le jazz qu'il donne à entendre par 4 grands orchestres ou big bands. Fletcher Anderson, Jimmy Lunsford, Count Basie ou encore Duke Ellington. Black and Tan Fantasy, où je cite un modèle d'œuvre auto-académique, c'est-à-dire un modèle d'œuvre où se retrouvent les deux éléments fondamentaux du jazz, les deux faces complémentaires d'un seul et même phénomène, le blues, qui lui fournit une grande part de sa thématique, et le swing, bien sûr, qui en distingue la singularité rythmique. Alors, par académisme et auto-académisme, il faut donc bien entendre la mise en œuvre du propre du jazz. Et là est la thèse de Jacques Reda, alors que la musique classique, qu'un concerto de Mozart, par exemple, vise l'idéal de la musique, vise à se porter hors du temps. Le propre du jazz, au contraire, c'est de nous confronter au temps en nous y confortant. C'est de ne pas vouloir le saisir hors de lui-même, mais dans son flux répétitif au présent. Count Basie ou une autre preuve de ce présent capturé et perpétué par le rythme, de la rencontre en une tension et une détente, du sauvetage précaire mais renouvelé de l'évanouissement, voilà donc le swing, une syncope perpétuelle de soi et aussi une manière de saisir la nature du temps, sa mécanique qui émerge et disparaît sans arrêt. Mais alors en quoi se conforter dans le temps, en quoi s'y abandonner grâce au jazz, peut-il pourtant donner cette impression d'y échapper? Et pourquoi le blues et le swing sont-ils ainsi apparus et ont-ils aussi été vus comme les musiques de l'émancipation? Eh bien, tout simplement parce qu'ils nous font danser, marcher en cadence. Ils nous dévoilent les autres sens possibles des rythmes les plus simples.
Merci Géraldine de terminer en dansant. Une civilisation du rythme, c'est le titre du livre.
Et c'est de Jacques Reda, c'est paru aux éditions Buchet-Chastel et il y a un CD qui reprend donc tous ces musiques que Jacques Reda commente.
Formidable, c'est noté. Merci à vous Géraldine, merci à Olivia Garry qui a préparé cette émission, Antoine Ravon, Nicolas Boudelou, Marianne Chassor, Nicolas Berger qui était à la prise de... qui était à la réalisation cette semaine, Mariam qui était à la prise de son aujourd'hui, Mariam Guillot à la prise de son aujourd'hui. On pourrait écouter l'émission Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie, vous pourrez la réécouter, puis la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Deux annonces, partenariat avec Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci un dossier « Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ?» Et puis à l'issue de cette semaine sur Sénèque, je vous invite à lire l'excellente bande dessinée que Mathieu Sapin consacre à Gérard Depardieu, c'est aux éditions d'Argo, et vous verrez qu'il y a des points communs absolument surprenants entre Gérard Depardieu et Sénèque. Mais oui, c'est affirmé et assumé.